Alors ce matin, j'aimerais aborder un livre biblique qui est dans la Bible, dont on parle très peu dans nos milieux chrétiens. Pourtant, c'est un livre biblique. Et je dois vous dire que j'ai prêché, je crois, une fois, en 30 ans, sur ce livre. Et j'ai entendu aucune prédication sur ce livre biblique. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va arriver à deviner de quel livre il s'agit. Cantique des Cantiques. Voilà, François le connaît peut-être par cœur, ce livre. Mais en tout cas, est-ce que vous avez souvent entendu un message sur le Cantique des Cantiques? Ah, mais voilà, mais je peux m'asseoir peut-être. Alors, le Cantique des Cantiques. Que dire avant de lire quelques versets? D'abord, le Cantique des Cantiques est un livre biblique qui a été écrit par le roi Salomon, le fils du roi David. Son nom y paraît 7 fois dans ce livre. Salomon a écrit 3 livres bibliques. Il a écrit d'abord le Cantique des Cantiques, plus tard il a écrit les Proverbes, et en fin de vie il a écrit l'Ecclésiaste, qui est en quelque sorte une autobiographie. Donc, l'ordre chronologique, c'est Cantique des Cantiques, Proverbes et Ecclésiaste. Mais si vous cherchez dans votre Bible, vous allez d'abord trouver les Proverbes, ensuite l'Ecclésiaste, et pour terminer, le Cantique des Cantiques. Le nom ou le titre Cantique des Cantiques signifie littéralement le plus beau des cantiques, le plus grand des cantiques. Nous avons la même idée dans le titre donné à Jésus, il est le roi des rois, c'est-à-dire le plus grand de tous les rois, le seigneur des seigneurs, le plus grand de tous les seigneurs. Nous avons une phrase équivalente de nos jours, on peut parler de quelqu'un en disant, ah lui ou elle c'est la crème de la crème. Ma femme me dit tous les matins, si seulement tu étais la crème de... Non, elle me dit tous les matins. Bon, je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle me dit tous les matins. Mais le plus beau des plus beaux, le plus gentil des plus gentils. Ce livre, Cantique des Cantiques, est une chanson d'amour. Un chant d'amour entre 2 personnes, un homme, Salomon, et une femme. On ne connaît pas le nom de la femme. On l'appelle la Sulamite. Mais quand on lit le Cantique des Cantiques, un chrétien averti peut voir des parallèles entre l'amour entre Salomon et sa femme et l'amour entre Jésus et le chrétien, Christ et l'Église. Et ce thème est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament et surtout dans Éphésiens chapitre 4. Dans le livre Cantique des Cantiques, Salomon est appelé le bien-aimé ou mon bien-aimé 27 fois. Un verset sur 4 contient ce mot bien-aimé. Et bien sûr, nous savons que Jésus est le fils bien-aimé de son Père. Et nous disons parfois, il est notre sauveur bien-aimé. Et dans notre livre de chants, il y a un chant qui dit, Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor. Tu m'as donné ta vie et ton amour. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te prie. Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Une particularité avec le livre Cantique des Cantiques, c'est qu'il n'y a aucune mention du nom de Dieu. Vous allez chercher l'Éternel Jéhovah Dieu et vous allez avoir du mal à trouver. Et vous connaissez certainement le fait qu'il y a 2 livres dans la Bible où on ne parle, où le nom de Dieu ne s'y trouve pas. Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Donc, Cantique des Cantiques, l'amour de Dieu est omniprésent. Mais le nom de Dieu n'y est pas. Dans le livre d'Esther, la main de Dieu est omniprésente. Mais le nom de Dieu n'y est pas. Un couple en difficulté ferait bien de lire le Cantique des Cantiques. Parce que ce livre ne parle pas que de l'amour, mais de plusieurs aspects de l'amour. Les paroles douces dans un couple. Le besoin de pardonner dans un couple. L'importance de la fidélité dans un couple. Il y a plein de notions très importantes par rapport à l'amour dans un couple qui sont dans ce livre. D'ailleurs, rien que les noms des deux protagonistes principaux contient tout un message. Salomon signifie pacifique. La Sulamite signifie fille de la paix. Oh, c'est formidable d'avoir un couple, une vie de couple pacifique, où il y a la paix, la tranquillité, parce qu'il y a l'amour du Seigneur qui se voit. En dernier lieu d'introduction, ce livre Cantique des Cantiques est lu dans des familles juives pieuses lors de chaque fête de la Pâque. Les gens sont en famille et souvent c'est le père de famille qui lit en entier ce livre, Cantique des Cantiques. Dans Cantique des Cantiques aussi, il y a ce que j'appellerais l'origine d'un de nos dictons ou d'un de nos proverbes. Il y a un verset qui dit « Tu es un lys parmi les ronces ». Et quel est l'équivalent en français aujourd'hui? Un lys parmi les ronces. Tu es une rose parmi les épines. Vous ne connaissez pas ça? Oui, bon, voilà. Non, bon. Peut-être que vous êtes tous endormis, mais bon. Il y a une cinquantaine de proverbes de dictons en français courant aujourd'hui, dont l'origine est dans la Bible. Je pourrais vous fournir la liste un jour si ça vous intéresse. Alors, venons-en donc à la lecture de quelques versets. Donc, je vous invite à trouver Cantique des Cantiques. C'est juste avant le livre d'Ésaïe, donc plus ou moins pile poil milieu de la Bible. Et on va lire quatre versets qui parlent de l'amour. D'abord, chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 16. Les psaumes, proverbes, ecclésiastes, cantiques des cantiques. Chapitre 2, verset 16. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys. Ensuite, chapitre 6, verset 3. Chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi les lys. Chapitre 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. Ou dans une autre version, ses pensées se tournent constamment vers moi. Et le dernier verset pour l'instant, chapitre 8, verset 7. Chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour, je suis un homme bien-aimé. Nous n'allons pas parler de l'amour dans un couple, mais de l'amour du Seigneur envers chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit chrétien depuis 20 ans, ou depuis un siècle, ou depuis une semaine, nous allons penser à l'amour du Seigneur pour nous. Il y a trois semaines, nous avons fait un culte le dimanche après-midi chez une dame de l'église, une dame de 75 ans, qui vient de passer 2 ans à l'hôpital. 2 ans, privée de culte. Et elle était malade de ne pas avoir un culte. Et elle a demandé, est-ce qu'on peut... Elle est rentrée chez elle, elle a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit culte chez nous? Donc on était 10, 12 personnes pour un culte d'une demi-heure chez elle, avec le pain et le vin. Et un des chants qu'on a chanté était un chant qui parle de l'amour du Seigneur. Le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur même. Le Seigneur même, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur même. Le Seigneur même, il est amour. Est-ce que vous êtes tous convaincus que le Seigneur vous aime? Il y a une quantité énorme de preuves que le Seigneur nous aime chacun. Pendant quelques temps, j'étais en colocation à Grenoble et j'ai partagé une chambre avec un garçon, un réunionnais qui s'appelait Petit Jean. Alors, il s'appelait petit Jean parce que d'abord il s'appelait Jean, et ensuite parce qu'il était petit. Et petit Jean, il travaillait dans le bâtiment tous les matins, pendant quelques semaines. Quand il se levait à 6 heures du matin, il chantait un vieux cantique, « L'amour du Seigneur est la plus belle chose que j'ai trouvée dans ce monde. » Alors, il chantait tous ces cantiques au saut du lit. Et moi, j'étais dans mon lit, j'étais en mezzanine, j'étais un peu plus bas. Et il me réveillait à 6 heures du matin. Quelle heure inhumaine. Donc, j'avais toujours un choix important dès mon réveil, tous les matins. Soit j'allais étrangler mon colocataire, soit j'allais louer le Seigneur avec lui. Alors, je vous laisse deviner le choix que j'ai fait, parce que je n'ai jamais été emprisonné, parce qu'on n'a jamais trouvé le cas. Non, bon. En tout cas, l'amour du Seigneur est la plus belle chose que j'ai trouvée dans ce monde. Je relis les phrases qu'on vient de lire. « Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. » J'aimerais dire trois choses très rapidement sur l'amour du Seigneur. La première chose, le Seigneur m'aime malgré mes péchés, malgré mes fautes, malgré mes défauts, malgré mes faux pas. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous aime malgré nos péchés. Cela m'a frappé l'autre jour dans mon culte personnel. Je lisais dans 1 Chronique, et dans 1 Chronique 21, David a commis un péché grave aux yeux du Seigneur. Pour nous, ce n'est pas grave. Il a décidé de compter combien de personnes habitaient dans son royaume. Combien de personnes faisaient partie de son armée. Mais c'était mal vu par un prophète et par le Seigneur. Et le Seigneur a envoyé un jugement sur le pays, et des milliers d'innocents, entre guillemets, on va dire, sont morts à cause de ce péché, cette bêtise du roi David. Et à un moment donné, David se rend compte, mais j'ai fait une bêtise. Et il dit, j'ai commis un grand péché. « Seigneur, veuille pardonner. Je me suis vraiment comporté de façon stupide. C'est moi qui ai péché, c'est moi seul qui ai fait le mal. » Malgré son péché, David savait que Dieu l'aimait. Et Dieu l'a prouvé de deux manières. D'abord, il a envoyé un prophète, Gad. Et Gad est venu avec un message de la part du Seigneur pour le rappeler à l'ordre. Et ensuite, Dieu a mis fin au jugement. Du jour au lendemain, plus aucun mort. David a été pardonné, David a été restauré. J'ai jamais tué des milliers de personnes. David l'avait fait. Mais Dieu l'a pardonné, parce que Dieu l'aimait. Ce qui m'a fait dire, le Seigneur nous aime malgré nos péchés. Que ce soit des grands ou des petits. Tout péché est un péché grave. Mais malgré nos péchés, le Seigneur nous aime. Et il se tient à bras ouverts, parce que si nous avons commis des péchés qui n'ont pas été pardonnés, le Seigneur se tient à bras ouverts pour nous accueillir, pour nous réparer, pour nous restaurer, pour nous pardonner. Mais il exige que nous confessions le péché, que nous nous en détournions, afin de marcher vers la lumière. Le Seigneur nous aime malgré nos péchés. Première chose. Deuxième chose, le Seigneur nous aime malgré nos épreuves. Pensez à Joseph qui s'est retrouvé en prison dans le livre de la Genèse. Il a résisté à des tentations très fortes de la part d'une femme. Il a voulu être fidèle envers le Seigneur. Et la récompense, il se retrouve en tôle. Il ne comprenait rien. Moi, j'aurais rien compris non plus. Il est en prison parce que il voulait être fidèle envers le Seigneur. Mais malgré cela, malgré cette épreuve inattendue, Dieu était avec lui. Et nous lisons plusieurs fois, l'Éternel fut avec Joseph. Joseph était toujours aimé malgré les épreuves. Je pense à Job. Ce monde s'est écroulé autour de lui. Il a tout perdu. Sa vie est devenue un cauchemar. Pourtant, malgré cela, malgré les injustices, le Seigneur l'aimait. Et Job tenait bon. Et il a dit même, je sais que mon Rédempteur est vivant et je le verrai. Il savait que le Seigneur l'aimait. Nous avons tous vécu des épreuves, de toutes sortes, je suis sûr. Mais sachons que quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, le Seigneur nous aime. Une épreuve ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus. Une difficulté ne signifie pas qu'on a perdu l'amour de Dieu. Surtout pas. Je pense à un couple, Marc et Gladys. Ils étaient des missionnaires américains avec un ministère béni en Iran dans les années 60. Et en 69, le pays d'Iran était un pays paisible à l'époque, ouvert à l'évangile. Et Marc et Gladys allaient de ville en ville pour évangéliser. Et un soir, ils partent pour faire un long voyage dans une autre ville pour visiter des chrétiens. Et la nuit était tombée, ils roulaient et ils ne voyaient pas très bien à cause des conditions climatiques. Et dans la voiture, il y avait Marc, Gladys et leurs trois enfants. Et malheureusement, Marc n'a pas vu qu'il y avait un tracteur avec remorque devant lui, arrêté sur le chaussée. Il est rentré dedans. Et il y a eu trois morts. Ces trois enfants. 13 ans, 11 ans et 6 mois. Lui et sa femme ont été blessés, hospitalisés. Mais pendant qu'ils étaient hospitalisés, ils reçoivent une visite des autorités pour dire que Marc, le chauffeur, allait être arrêté pour homicide involontaire. Pas seulement il a perdu ses trois enfants, mais il allait être condamné pour le fait que c'est lui qui les a tués. Vous vous rendez compte? Ils sont là-bas. Ils avaient quitté toute la vie de luxe aux États-Unis pour servir le Seigneur. Mais ce n'est pas possible. Finalement, après une période de tribunal devant les juges, il a été acquitté, miraculeusement. Et ils se sont retapés sur le plan santé et ils ont pu servir le Seigneur encore 10 ans jusqu'à ce qu'il soit expulsé en 69 quand il y a eu la révolution islamiste. Mais pendant tout ce temps-là, je peux vous dire qu'ils se sont posé des questions. Ils en ont posé des questions aussi à des amis chrétiens. Mais il y a quelques mois, j'ai lu leur témoignage et ils ont dit, pendant tout ce temps d'épreuves, de tristesse, de pleurs, toutes les nuits, ils ont pleuré pendant des mois et des mois. Ils ont dit, Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Son amour, disent-ils, nous a gardés. Nous avons connu une autre dimension de l'amour du Seigneur. Quelles que soient nos épreuves, et je ne sais pas si on va connaître des épreuves comme ça, mais quelles que soient nos épreuves, disons-nous constamment, le Seigneur m'aime. Bonheur suprême. Malgré mes péchés, Dieu m'aime. Malgré mes épreuves ou mes difficultés, Dieu m'aime. Et pour terminer, le Seigneur nous aime malgré nos doutes. Malgré nos doutes. On peut avoir des doutes quant à notre passé, quant à notre présent ou face à l'avenir. On peut se poser des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous devons toujours confier nos incertitudes au Seigneur et lui demander de nous donner des certitudes en retour. On doit confier au Seigneur tout ce qui n'est pas sûr dans notre vie et le Seigneur va nous donner des promesses qui sont sûres et certaines. Et malgré nos doutes, le Seigneur va toujours nous aimer. Si je parle d'un personnage dans la Bible qui a douté, vous avez pensé à qui? Si je ne vois pas Thomas, je me suis toujours demandé, mais si par exemple Matthieu ou Pierre ou André n'avaient pas été là ce jour-là, est-ce qu'ils n'auraient pas dit la même chose que Thomas? Mais si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais malgré cela, le Seigneur a aimé Thomas. Il s'est présenté à Thomas. Et Thomas a eu une bénédiction et nous recevons une bénédiction aussi. Parce que Jésus parle de nous parce que nous croyons sans avoir vu. Et dans nos doutes, à cause de nos difficultés, ou à cause des épreuves des autres, ou d'incertitudes par rapport à l'avenir, confions-les au Seigneur et sachons que le Seigneur nous aime malgré tout. Et le Seigneur nous aime même si parfois on est un peu vacillant, on est un peu troublé. L'auteur du cantique Amazing Grace, Grâce merveilleuse, il s'appelait John Newton. Et sa femme Mary est décédée après 40 ans de mariage. Et quand elle est décédée, John Newton a dit ceci par rapport au doute. Il a dit, en tant que pécheur, je n'ai pas le droit de me plaindre. En tant que chrétien, je n'ai pas de raison de me plaindre. La mort de sa bien-aimée, 40 ans ensemble. Et il dit, mais Seigneur, pourquoi me plaindre? Elle est avec toi, tu me donnes 40 ans, je suis ici avec toi. Et il aurait pu dire, je suis mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Et même les fleuves ne peuvent pas éteindre le feu de l'amour du Seigneur. S'appuyer sur Dieu. Crier vers Dieu dans les moments de doute, dans les moments de difficulté. Je termine. Je peux dire que l'amour du Seigneur est la plus belle chose que j'ai trouvée dans ce monde. J'ai l'amour de ma femme, c'est formidable. J'ai l'amour de mes enfants, c'est formidable. J'ai l'amour d'amis, de frères et sœurs, c'est super. Mais l'amour de Jésus est la plus belle chose que vous allez trouver dans ce monde. Et l'amour du Seigneur est un amour stable, fiable, incroyable, formidable, remarquable, inépuisable. Et j'en ai d'autres ici aussi, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ma connaissance de la langue française. Mais même quand je me sens instable, pitoyable, minable, flingable, vous ne connaissez pas ce mot, hein, je l'ai inventé. Flingable, c'est quand on a envie de se flinguer. J'étais chez un chrétien, c'est enregistré. Il m'arrive d'être chez des chrétiens parfois qui sont prêts à se flinguer. Tellement ils sont découragés. On disait il y a quelques jours à des amis à Paris qu'un jour on s'est mis à table, on avait du monde, tu reçois un coup de fil, ça remonte à quelques années, et la personne a dit, David, c'est un couple qui venait de se convertir, le monsieur a dit, David, je t'appelle juste pour te dire adieu. Ah oui? Oui, parce que j'ai mis mon fusil de chasse, je vais tuer ma femme, mon fils, et puis moi. Adieu. Alors qu'est-ce que vous auriez dit si quelqu'un vous disait ça au téléphone? On avait du monde. J'étais à table. Et quand je suis à table, j'aime bien être à table. Bien sûr, on se lève et on part. Et ce matin, je crois que ce couple est au culte dans leur église d'origine. Ils ne se sont pas flingués. Même s'ils étaient un peu flingables, ils se sentaient flingables. Le Seigneur les a relevés, malgré leurs doutes, malgré leurs difficultés, malgré leurs épreuves. Je termine avec un dernier verset, donc, Cantique des Cantiques, chapitre 1. C'est un verset que j'ai lu le jour de l'an. J'ai passé 3 semaines en janvier dans le Cantique des Cantiques. C'est un peu pour ça que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Et le jour de l'an, nous avons fait un culte à Arras et j'ai lu ce verset pendant la présidence. Cantique des Cantiques 1, verset 4. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. C'est la deuxième partie de verset 4. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, deuxième partie. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. On va dire, Seigneur. Célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Célébrons l'amour du Seigneur, lui qui nous aime malgré nos péchés, malgré nos épreuves, malgré nos doutes. Et disons au Seigneur, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon cœur sans partage. Seigneur, en retour, reçois mon esprit bien disposé. On a tous un esprit. Parfois, il est bien disposé. Parfois, il est mal disposé. Disons au Seigneur, reçois mon esprit bien disposé. Et disons-lui, Seigneur, comme Jean-Baptiste, je veux brûler et briller pour toi. Prions. Nous, Seigneur, nous voulons te remercier pour la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de ton amour. Nous te remercions pour l'épreuve quotidienne de ton amour, de ta fidélité. Que ce soit le soleil qui se lève et qui se couche toujours à la minute près. Que ce soit notre nourriture, que ce soit la santé, que ce soit la paix dans le pays, que ce soit les habits que tu nous donnes, tant de choses. Nous te remercions surtout pour le don merveilleux de ton Fils Jésus. Aide-nous, Seigneur, à refléter ton amour, mais aide-nous aussi, Seigneur, à partager ton amour et à t'aimer en retour. Aide-nous aussi à nous aimer les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Mais merci encore pour ton amour inépuisable et formidable. Amen.